Regard sur le monde sur Canal M. Bonjour Diane.
Bonjour Michel.
Nous avons nos chroniqueurs aujourd'hui, beaucoup de choses au menu.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va avoir une nouvelle chroniqueuse aujourd'hui que je vais présenter.
Absolument. Alors, on a Claudia Negrelli qui vient nous voir, on a Vincent François et bien sûr, nos nouvelles avec Christiane Campagna et notre nouvelle chroniqueuse.
Notre nouvelle chroniqueuse, Michel, c'est Madame Anne Jarry qui est professeure agrégée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal.
Au menu de Regard sur le monde pour aujourd'hui. Madame Christiane, bonjour.
Bonjour.
Vous avez toutes sortes de nouvelles pour nous parce que vous fouillez toutes sortes d'affaires.
Oui, je passe beaucoup de temps sur Internet et c'est ce qui explique sans doute que je vais vous faire une chronique assez techno aujourd'hui. On a souvent parlé dans les différentes émissions à Canal M d'applications utiles pour les personnes en situation de handicap, souvent les personnes ayant un handicap visuel, mais parfois on en parle quand elles sortent, puis on n'en reparle pas par la suite. Et là, c'est comme un petit suivi pour l'application Be My Eyes.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une application qui met en contact des personnes voyantes et des personnes non-voyantes. Vous téléchargez l'application et si vous êtes une personne non-voyante en train de faire son épicerie, par exemple, et que vous avez devant vous deux sortes de fèves et vous ne savez pas laquelle et vers où aller tendre votre main pour avoir des fèves blanches plutôt que des fèves pinto, vous faites appel à l'application. Et ce qui fait qu'une personne qui est voyante, qui est abonnée aussi à ce service-là, va recevoir un appel et vous allez avec votre caméra lui indiquer les deux boîtes à choisir et elle va vous dire c'est celle qui est près de votre main droite.
Hey, c'est incroyable.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne. Et en fait, il y a eu tellement de volontaires pour cette application-là que j'entendais récemment dans un balado diffusion que j'écoute souvent que la personne voyante l'a utilisé récemment pour la première fois parce que particulièrement chez les utilisateurs de langue anglaise, il y a eu tellement de volontaires que si vous répondez pas dans la seconde, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir l'appel parce qu'il y a beaucoup plus de voyants que de non-voyants là, mathématiquement et c'est ce qui fait que vous avez en fait pas si souvent que vous auriez pu peut-être le penser, l'occasion d'aider quelqu'un. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, oui, c'est sûr, c'est mathématique, il y a plus de gens qui voient que de gens qui ne voient pas. Mais il y a aussi la question de l'accès à un téléphone intelligent pour les personnes non-voyantes. Il y a deux obstacles généralement à ça. Il y a la question de la littératie numérique, hein, savoir s'en servir, tout ça. Pour ce volet-là, j'ai remarqué récemment, en préparant les entrevues pour les différentes émissions ici, qu'il y a de plus en plus d'organismes qui offrent des ateliers. Je pense, par exemple, au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qui a, le vendredi, on parle techno ou un nom semblable à ça, je ne l'ai pas sous les yeux, à chaque premier vendredi du mois. Alors ça, c'est l'occasion pour pouvoir avoir accès à la technologie dans le sens de savoir comment s'en servir. Mais il reste quand même le problème d'avoir accès économiquement à un téléphone intelligent. Et c'est là que j'ai pensé à un autre programme. Vous voyez, je fais des croisements entre les différentes choses que je vais passer sur Internet.
C'est bien, vous faites des recherches pour nous.
Oui, ça m'a fait penser à un nouveau programme de l'INCA, l'Institut canadien des aveugles, qui s'appelle « Rendre l'appareil ». Les gens qui sont friands de techno aiment changer d'appareil souvent parce qu'ils veulent le plus récent, avec les dernières applications, les derniers gadgets. Qu'est-ce qu'on fait avec le vieux? Il y a tout le problème aussi de la pollution qui vient avec ça, comment le recycler. Eh bien, vous pouvez le donner à l'INCA. Ça va tout d'abord compter comme un don de charité. Alors, vous allez pouvoir avoir un reçu pour votre appareil. Et eux font affaire avec une compagnie qui s'appelle Fixt, de réparation sans fil. Ils vont réparer les téléphones intelligents généreusement donnés. Ils vont être mis à niveau avec les normes de sécurité les plus élevées et surtout dotés d'applications accessibles aux personnes non-voyantes et vont être donnés à une personne non-voyante pour qu'elle puisse s'en servir pour peut-être se servir d'une application comme Be My Eyes.
Que de créativité.
Donc, est-ce qu'on peut donner les coordonnées s'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaiteraient donner leur appareil? C'est une excellente idée. C'est un bon recyclage.
Oui, absolument. Alors, c'est rendrelappareil.ca ou bien vous composez le 1-833-554-5020.
C'est vraiment intéressant. Je veux revenir, on a encore quelques minutes, sur le Be My Eyes. Est-ce que c'est disponible au Québec, ça?
Oui.
Donc, les gens peuvent...
Vous allez dans votre magasin d'applications de votre téléphone et vous allez pouvoir y avoir accès.
En français et en anglais?
Oui, c'est disponible un peu partout dans le monde.
Ah bon?
Vous, en fait, quand vous remplissez, vous dites dans quelle langue vous êtes capable d'aider quelqu'un.
C'est vrai, parce que ça peut être des gens de n'importe où dans le monde qui peuvent répondre.
Oui, absolument.
On a encore un peu de temps, Christiane. Est-ce qu'on a autre chose?
Bien, un produit qui n'est pas encore sur le marché, mais qui pourrait arriver, qui s'appelle le macaron, et qui serait un galon à mesurer pour les personnes non-voyantes. Mais en fait, la start-up qui l'a lancé, qui s'appelle Osiris, qui est franco-australienne, veut l'offrir, en fait, à tout le monde. Mais l'avantage, c'est qu'il serait accessible pour les personnes en situation de handicap. J'ai vu une vidéo, c'est un peu étonnant, parce que ça fait un ruban mesuré sur lequel il n'y a rien écrit. Par contre, selon le système que vous avez choisi, ça vous indique à combien de centimètres, par exemple, vous êtes rendu. Ça l'indique sur l'écran, sur l'appareil, mais ça le dit aussi, donc, pour la personne qui ne voit pas. Mais là où ça devient utile pour tout le monde, c'est que c'est relié à votre téléphone intelligent, et que vous n'avez pas à sortir, en plus, avoir quatre mains, là, et sortir un stylo et un papier pour prendre en note en même temps que vous mesurez. Alors, ça rend tout le monde autonome, même ceux qui ont juste une paire de bras à la maison pour faire des travaux. Alors, ça s'appelle le macaron, et ils espèrent pouvoir le commercialiser bientôt.
Christiane Campagna, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.
Que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi. N'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Dans ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est. Sans que dans ta vie plus rien ne t'appartient. En bohème, tu erres dans la nuit, apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton. Ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour.
Sur Canal M, c'est Regards sur le monde. Diane, avec le mois de janvier que nous avons, j'ai pensé que cette chanson pourrait réchauffer non seulement les cœurs, mais enfin nous réchauffer. Voilà.
Vous êtes concept, Michel.
Alors, nous avons en ligne.
Oui, Claudia Nigrelli. Bonjour, Claudia.
Ben, bonjour à vous deux.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, vous?
Ben oui, très bien, merci. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'outils qui donnent accès au web pour les personnes en déficience visuelle.
Exactement. Exactement. Donc, écoutez, moi, c'est sûr qu'il y en a une panoplie des outils qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous apporter quelques-uns. Donc, c'est sûr que si on prend un ordinateur déjà, donc moi, je pense à moi personnellement et à d'autres personnes en situation d'handicap visuel. Quand on a des entreprises ou quand on veut jouer sur Facebook ou peu importe, faire une recherche ou aller sur YouTube, c'est clair que, bon, pour moi, dans mon cas, c'est sûr qu'on voit pas l'écran. Hein? Donc, moi, quand je perdais de plus en plus la vision, ben, je voyais pas comment j'aurais pu être capable de faire ça. Donc, ça existe, qui s'appelle JAWS, donc, qui est un lecteur d'écran pour PC. Et aussi, pour les gens qui ont un petit peu de vision, ben, ça existe Zoom Text aussi.
OK. Donc, comment vous appelez JAWS, Claudia?
JAWS, c'est J comme le, en fait, le requin. Donc,
okay.
J-A-W-S. Donc, c'est vraiment un lecteur. Ça, c'est un acronyme pour quelque chose que je n'en me souviens pas en ce moment.
Mais il n'y a pas de
souci. Ouais. Mais c'est ça. Donc, en fait, Zoom Text aussi, ça peut juste agrandir, donc grossir l'écriture pour ceux qui ont quand même une base vision. Donc, un peu plus de vision que moi. Puis moi, par contre, je suis quand même très fascinée aussi par bon tout qu'est-ce qui est les produits Apple, tout qu'est-ce qu'on on se rend pas compte en fait qu'est-ce qu'un cellulaire peut faire. Donc Apple pour moi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un téléphone cellulaire normal. Donc soit vous ou moi, on peut l'acheter. Et par contre, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle VoiceOver. Et VoiceOver, c'est vraiment un lecteur d'écran aussi. Donc, on utilise différentes touches, donc avec nos doigts. Il y a différentes façons de faire. Où est-ce qu'on peut vraiment naviguer sur le téléphone comme vous naviguerez sur votre téléphone. Donc, moi, je peux comprendre. C'est peut-être une vitesse un peu plus vite que j'écoute mon téléphone avec la pratique. Mais c'est clair qu'on peut tout faire. Donc
je comprends que c'est une voix qui nous lit ce qui est écrit à l'écran.
Exactement. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve, bon, avec l'innovation des cellulaires et toutes les applications qui existent aujourd'hui, ben, ça a remplacé beaucoup les outils que dans le temps, j'avais à traîner, mettons, de classe en classe ou à le travail. Donc, on parle maintenant d'un scanner, on parle d'un outil qui était capable de lire des billets d'argent. C'est vraiment aussi un GPS. Donc, tout ce petit cellulaire-là a remplacé le sac à dos d'outils que j'avais à traîner dans le temps.
Mm-hmm.
Quand on parle de technologie, c'est pas toujours négatif.
Et est-ce que c'est gratuit, ces applications?
Oui, ben la majorité des applications sont gratuites. C'est sûr qu'il y en a que, bon, si on regarde les différents GPS, donc les programmes de GPS, il y en a qu'il faut payer. Pour moi, personnellement, ça vaut l'investissement. Donc, si on est vraiment quelqu'un qui circule dehors, question de sécurité, pour moi, je trouve que c'est important. Puis en sentant que si on avait à payer un GPS, ben on allait le payer. Tandis que maintenant, c'est vraiment un outil. Donc, on a vraiment juste à traîner notre cellulaire ou notre ordinateur avec nous quand on se déplace. Donc, l'ordinateur aussi, hein, on peut, si on a un Mac, on peut avoir les mêmes applications. Si on a un PC, ben c'est un peu différent. moi, je pense qu'il faut investir en soi parce qu'on aurait, de toute façon, on aurait dépensé sur les différents outils.
Je veux revenir, Claudia, sur l'appareil qui lit les billets de banque. Alors, c'est à partir de votre iPhone?
Oui, donc en plus, il y a une application qu'on peut avoir. Je me souviens pas comment ça s'appelle. Je vais vous revenir. Au pire, vous pouvez l'ajouter dans les notes
Pour la semaine prochaine.
Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça peut lire les billets. Donc, on fait vraiment juste mettre notre téléphone, la caméra de notre téléphone par-dessus et ça lit les billets d'argent. Donc, moi, je trouve ça aussi, qu'est-ce qui est bien avec la technologie, moi, je me sens jamais seule. Ah, puis moi, j'ai goût de parler d'une application qui a vraiment changé ma vie. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est Be My Eyes, donc Sois mes yeux, en fait, si ça se traduit. Donc, Be My Eyes, c'est vraiment une application où est-ce qu'il y a des bénévoles à travers le monde qui peuvent s'inscrire, donc des gens voyants. Vous pouvez le faire aussi, les gens voyants qui s'inscrivent. Et nous, les non-voyants, quand on a besoin d'aide, ben on fait vraiment appel. Donc, c'est très, très facile à naviguer, justement, avec le lecteur d'écran. Et on peut poser n'importe quelle question. Donc, aide-moi à savoir quelle couleur que ça c'est. Je suis perdue. Qu'est-ce que tu vois autour de moi? Je suis en train de cuisiner quelque chose. Est-ce que peux-tu me dire la température? N'importe quoi.
Claudia, justement, oui. Christiane, tout à l'heure, nous a parlé de cette application et ma question, c'était ça. Est-ce qu'on peut utiliser ça au Québec? Et là, vous nous confirmez le tout de façon... Vous l'avez déjà utilisé.
Oui, absolument. Moi, je l'utilise, je dois dire, pas tous les jours, mais très souvent, en fait. Donc, j'ai plus à me soucier... Si j'échappe quelque chose à terre, je fais appel aussi, je l'ai déjà fait, je fais appel à Be My Eyes et voilà, la personne m'aide à trouver quelque chose à terre. Donc, je me sens vraiment jamais seule.
Il nous reste à peine 30 secondes, oui, Claudia. C'est quoi votre autre petit truc?
L'autre, c'est Seeing AI. Donc, j'invite les gens à aller le voir. SEEINGAI. Donc, Seeing Artificial Intelligence. Puis c'est génial. Donc, je vous laisse le goût d'aller le voir, qu'est-ce que ça fait. C'est génial aussi.
Bien, merci beaucoup, Claudia.
Merci.
À la semaine prochaine. Merci.
À la semaine prochaine. Bye-bye.
Bye-bye.
Cuando yo
Alors, Diane, je voulais encore une fois demeurer dans le ton et donner de la chaleur à nos auditeurs. C'est très, très important.
C'est très inspiré, Michel.
Avec le mois de janvier que nous avons. Nous avons en ligne M. Vincent François, qui est consultant chez Boréal. Bonjour, M. François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que c'est un sujet un petit peu particulier et je ne vous cache pas ma surprise d'avoir vu sur les fils de presse qu'une dame aveugle poursuit la société de divertissement de Beyoncé pour discrimination. Et on a vu même avant les fêtes un monsieur qui poursuit Playboy en justice dans le même sens.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ces choses? C'est assez particulier.
Alors, c'est moins particulier que ça peut paraître a priori. En plus, bon, c'est deux icônes connues, Playboy, on sait pourquoi, et Beyoncé, comme une star reconnue internationalement. Donc, ça a un peu plus d'effet, et donc on en parle un peu plus au-delà des cercles liés aux gens qui sont bénéficiaires, aux personnes handicapées qui sont bénéficiaires des règles d'accessibilité, et au-delà du cercle des experts et des techniciens qui travaillent à s'assurer que le web soit accessible. Donc c'est pour ça que ça paraît un petit peu nouveau, mais en fait, c'est pas nouveau, c'est simplement plus visible.
Et quelle est la différence, justement, quand on parle de site accessible, on parle de quoi? Est-ce que c'est une technologie particulière?
Alors, on parle d'abord de qualité. On parle de s'assurer que ce qu'on met sur le site web sera accessible à tout le monde, incluant les personnes qui ont des limitations fonctionnelles et les personnes qui se trouvent en situation de handicap à cause du site web. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec, par exemple, des personnes aveugles, et dans les deux cas, on a des problèmes liés à la vue, qui vont être empêchés d'accéder à une information parce qu'elles se trouvent sur un écran. Mais si l'utilisatrice aveugle téléphonait au service de Mme Beyoncé, elle aurait l'information sur ses tours et ses campagnes de chant sans problème, puisque le problème, c'est l'écran et le fait qu'on puisse avoir des problèmes à lire ce qu'il y a sur l'écran. Et donc, quand on parle d'accessibilité, on s'assure de faire que ce qu'on fait pour l'écran va être capable de fonctionner, par exemple, pour un lecteur d'écran, qui est un outil qui va lire à voix haute le contenu d'une page, pour un afficheur braille, qui va donc afficher physiquement, à travers des petits picots, une ligne du code en braille. Et on va s'assurer donc que ce qui est rendu pour les yeux soit aussi bien rendu pour les oreilles, pour le toucher, pour toutes les façons qu'on pourrait avoir de consommer cette information. Et c'est ça l'accessibilité.
À votre connaissance, Monsieur François, est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont des sites accessibles pour tous? Est-ce que c'est pratique courante?
Oui, alors il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour que ça soit la réalité, mais il y a malheureusement énormément de sites web qui ne sont pas du tout accessibles ou qui sont partiellement accessibles, et dans ce partiel, on peut avoir des blocages réellement problématiques dès le début. Ce qu'il faut voir, c'est que l'accessibilité, c'est de la qualité. Comme dans le monde physique, on peut avoir des rampes d'accès pour des chaises roulantes, on peut avoir des touches en braille dans les ascenseurs, des trottoirs surbaissés pour accéder toujours en chaise roulante. Et dans le monde numérique, on a des règles du même genre pour des problèmes liés à la cécité, des problèmes liés d'audition, des problèmes cognitifs, etc. Et des problèmes moteurs aussi avec la souris et le clavier. Donc, c'est un continuum entre pas du tout accessible et totalement accessible.
Quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir un site accessible, justement?
Alors, le premier, c'est que mathématiquement, c'est d'avoir plus de clients. À partir du moment où vous vous assurez que tous vos clients, quelles que soient les situations de handicap dans lesquelles ils vont se trouver face à votre site web, vont pouvoir accéder, ils vont pouvoir consommer, ils vont pouvoir acheter. Dans le cas de Beyoncé, la personne, la plaignante, se plaint du fait que, étant aveugle, elle bénéficie quand même à plein de la musique, mais à cause du site web, elle n'est pas capable d'avoir les informations sur les prochaines tournées, sur les concerts, les dates, et même de réserver des places. Donc il y a cette première possibilité. La deuxième, c'est un terme d'image de marque, c'est que c'est une très très mauvaise politique pour quelqu'un de connu comme Beyoncé de se mettre à dos toute une partie de la population et de se mettre à dos aussi une partie de la population qui ne va pas être appréciée qu'on exclue les personnes handicapées. Donc ça, en termes d'image de marque, c'est très très mauvais. Et puis, je dirais, moi qui travaille dans l'accessibilité depuis longtemps, je vois dans la réalité de la production que les gens qui rendent leur site accessible, soit en le corrigeant, soit en prenant l'accessibilité en main dès le début, font un travail, cette qualité, elle rejaillit sur toute leur façon de travailler, et parfois c'est plus rapide, c'est plus efficace, c'est plus facile à maintenir de faire un site accessible que d'essayer de corriger un truc à la fin.
Donc, c'est avantageux pour les entreprises d'avoir des sites accessibles sur plusieurs points de vue. J'ai une question qui me brûle les lèvres, là, ça paraît peut-être. Il nous reste à peine une minute et j'aimerais avoir votre avis parce qu'on va, après la pause, on va revenir avec vous sur d'autres éléments. Mais d'après vous, quelles sont les chances de réussite d'une poursuite semblable? Parce qu'il y en a quelques-unes aux États-Unis.
Alors, évidemment, je ne suis pas devin et je ne suis pas tout à fait expert ni dans le système judiciaire américain, ni même dans toutes les poursuites. Simplement, il y a quand même une tendance à faire respecter ces règles. L'accessibilité est de moins en moins vue aux États-Unis comme quelque chose de secondaire. Il y a des vraies règles gouvernementales. Il y a des moyens techniques de les respecter. Donc ça aussi, ça c'est très important. Et donc les excuses pour ne pas être accessible deviennent de plus en plus ténues, de plus en plus difficiles à défendre. Et il y a une machine juridique aux États-Unis qui se met en marche. Il y a des avocats qui voient qu'ils peuvent faire la pièce avec
nous. Oui, 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 assurément. Monsieur François, vous demeurez avec nous. On est de retour tout de suite après la pause. À Regard sur le monde. C'est notre émission Regard sur le monde sur Canal M et nous sommes de retour avec notre invité, M. Vincent François, qui est un spécialiste consultant chez Boréal. M. François, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'accessibilité des sites web.
Mais moi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je me suis intéressé à ça. On s'intéresse à l'accessibilité en général de deux façons. Soit parce qu'on est soi-même touché par une limitation fonctionnelle ou quelqu'un proche de la famille, on vit dans cette réalité-là et on trouve des moyens, des béquilles électroniques pour pouvoir partager sur le monde, à travers le monde numérique. Mais moi, je suis rentré par l'autre approche, qui est l'approche de la qualité du code, la qualité du site web. J'avais commencé à faire des sites web par plaisir, personnellement, ensuite professionnellement, au début des années 2000, et je me suis rendu compte, c'était un milieu très concurrentiel, et qu'il y avait probablement dans la qualité de ce qu'on faisait des façons d'opérer, et j'ai découvert, tout à fait par hasard, qu'il y avait des règles d'accessibilité, et un jour, quelques mois après, j'ai voulu monter une entreprise là-dedans pour offrir des services que je fais aujourd'hui d'accessibilité pour les entreprises qui souhaitent s'assurer que leur site fonctionne complètement pour tout le monde. Et puis j'ai rencontré Jean-Marie Damour, qui travaillait à l'INLB, l'Institut National Nazareth Louis Braille, et qui lui œuvrait là-dedans. On a travaillé ensemble pendant des années, il m'a formé sur les questions d'accessibilité, et donc je suis rentré par l'idée de faire quelque chose de qualité pour tout le monde. Mais il y a maintenant une troisième façon de rentrer dans l'accessibilité, c'est que ça devient de plus en plus obligatoire, et on le voit à travers ces deux exemples de procès. Si ce n'est pas par amour du travail bien fait ou pour le souci des personnes qui sont dans des situations de handicap à cause des écrans, c'est simplement parce que la loi l'oblige de plus en plus.
Est-ce que c'est très exigeant pour les entreprises de rendre leur site accessible si l'entreprise ne s'est jamais vraiment intéressée à cela? Est-ce qu'elle doit refaire complètement son site web? Est-ce qu'il s'agit de faire simplement des ajustements? Est-ce que c'est lourd?
Alors ça peut l'être, ça dépend comment, ça dépend du niveau de catastrophe du site en fait. D'abord, si c'est un nouveau site, il n'y a pas grand-chose de très lourd à faire, simplement il faut connaître les règles, il faut être capable de faire ce qu'il faut pour les appliquer, donc il y a de l'apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas anodine, mais on s'aperçoit quand on apprend les règles d'accessibilité que souvent ce sont des règles de gros bon sens, ce sont des règles qu'on avait déjà à faire pour d'autres raisons et qu'on avait peut-être négligées. Sur un nouveau site, il y a un apprentissage, mais le travail réel de nouveauté à faire, il n'est pas très grand. Pour un site existant, ça peut être très difficile ou ça peut être facile suivant la qualité générale du site.
Suivant votre expérience des 15 dernières années, est-ce qu'il y a une grande ouverture au niveau des entreprises dans ce secteur?
Il y a l'ouverture. L'essentiel de l'ouverture que j'ai pu vivre pendant ces 15 dernières années, c'était des ouvertures individuelles. Donc des gens qui, soit par amour du travail bien fait, soit par le respect des personnes et de leurs clients, vont s'intéresser à ça. Mais ce n'est pas toujours évident que leur hiérarchie s'intéresse. Maintenant, il y a le levier juridique américain, notamment, qui est un gros motivateur pour les entreprises. Et c'est vrai qu'une grande partie des clients que je vois plus récemment sont souvent poussés par ça, soit parce que ce sont des compagnies américaines, soit ce sont des compagnies qui font affaire aux États-Unis et qui, à ce titre-là, sont obligées de respecter ces règles-là. L'argument économique de l'intérêt pour l'entreprise de rendre son site accessible, je n'ai pas l'impression qu'il soit bien perçu par les gens. C'est vraiment l'intérêt personnel pour faire du bon travail et la peur du bâton de l'avocat qui fait avancer les choses.
Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une loi au Québec ou au Canada.
Alors, c'est différent. Au Canada, il y a des règles qui l'obligent pour le gouvernement. Il y a eu un procès retentissant en 2011 qui a forcé le gouvernement avec succès à rendre accessible ce qu'il faisait. Au Québec, on a des règles pour le gouvernement aussi qui sont, j'irais, un peu tombées dans l'oubli depuis 2011. On a été à l'avant-garde en 2011 des règles internationales, mais on ne les a jamais, je ne dirais pas qu'on ne les a pas appliquées, mais on n'en a pas fait grand-chose de visible. Il y a en Ontario des règles qui obligent toutes les entreprises employant plus de 50 personnes de se conformer à des règles d'accessibilité, mais qui, elles, sont temporairement plus basses. Donc, c'est plus obligatoire, mais c'est moins important qu'il y a à faire. Et puis, il y a les États-Unis, où là, maintenant, il y a beaucoup de domaines d'activité, plus le gouvernement, qui sont atteints par ces règles et donc qui s'y conforment. Et c'est un petit peu pareil en Europe. Ça pousse suivant les pays. Les législations vont être plus ou moins fortes à imposer des règles d'accessibilité.
Comment on fait pour savoir si un site est accessible ou non?
Alors, il y a la façon complète, c'est de faire appel à des experts comme moi, qui vont être capables de prendre une centaine de questions que je pose sur chacune des pages de l'ensemble de tests qu'on va prendre ensemble. Et puis, je vais vérifier, par exemple, qu'avec le clavier, je suis capable de faire toutes les fonctions qui sont faites à la souris. Je vais vérifier les contrastes de couleurs. Je vais vérifier que derrière chaque image, on a un texte de remplacement qui va être, lui, prononcé par un lecteur d'écran pour quelqu'un qui ne verrait pas les images. On va vérifier qu'on peut que la navigation, que la structure de la page en interne soit bien comprise par les lecteurs d'écran et, in fine, par l'utilisateur lui-même. Mais ce sont des choses qu'on peut apprendre par soi-même. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est une démarche de qualité assez transparente. Que les tests que moi je vais faire et pour lesquels je vais faire un rapport, on peut les faire par soi-même pour autant qu'on se mette à apprendre toutes ces règles-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est de faire appel à un expert pour voir un petit peu où on en est. Et puis, cet expert pourrait ensuite donner de la formation, expliquer les tenants et aboutissants de chacune des règles pour qu'ensuite les gens deviennent complètement autonomes, puisque l'accessibilité, c'est de la qualité. Et le but, c'est d'être capable de le faire soi-même, sans avoir un expert derrière son dos constamment.
Donc, il y a de nombreux avantages à rendre notre site Internet accessible. Et M. François, bien de Consultation Boréale, on peut vous rejoindre où?
On peut me rejoindre sur le web, Consultation Boréale, par exemple, .com.
Tout si simple que ça. Merci infiniment, M. François, de toutes ces précisions. On aura sûrement l'occasion de se reparler.
Avec grand plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Alors Diane, nous avons le bonheur d'avoir une nouvelle chroniqueuse et pas n'importe laquelle. Elle est professeure agrégée
oui,
à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Madame Anne Jarry, bonjour.
Bonjour, bonjour Michel.
Merci beaucoup de nous donner du temps dans le cadre de notre émission parce qu'on va parler de plusieurs sujets.
Donc, Madame Jarry, il y aura donc quatre axes à votre chronique. Je les nomme, il y a substitution de la vision, basse vision, orientation et mobilité et un volet recherche. Alors, qu'est-ce qui nous attend concrètement dans les prochaines semaines?
Écoutez, moi, j'ai le bonheur de vous présenter le programme le mieux caché, le mieux, je dirais, le moins connu, je dirais, au Canada, qui est un programme de maîtrise, donc de deuxième cycle, en intervention en déficience visuelle pour former des professionnels qui travaillent auprès des personnes atteintes de basse vision ou de cécité. Et pour les quatre prochaines rubriques, on va parler de qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce que les étudiants ont comme thème de recherche pour développer nos connaissances dans le domaine de la neuroplasticité, de l'intelligence artificielle, de la basse vision, des symptômes dépressifs diagnostiqués à temps ou à des moments différents au courant de la vie chez la personne qui vit avec une déficience visuelle. Donc, différents sujets de recherche et différents thèmes qui sont abordés dans le cadre de cette maîtrise en intervention en déficience visuelle.
Donc, l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, c'est quelque chose, comme vous dites, qui est un secret bien gardé. Vous formez des optométristes, mais vous formez aussi des intervenants, je pense. Hein?
Exactement. En fait, les étudiants qui entendent parler de notre programme, souvent vont dire « j'ai pas pensé appliquer parce que je croyais que ça s'adressait à des optométristes ». Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut démystifier. On accueille des étudiants qui ont des diplômes de premier cycle, souvent dans des domaines reliés soit à la relation d'aide ou à tout ce qui concerne le développement du corps humain et même le développement du cerveau via les nouvelles technologies. Alors, on peut aussi bien recevoir un étudiant qui a un bac en psychologie, en psychoéducation, en éducation spécialisée, en kinésiologie, en kinésiothérapie, en ergothérapie. Mais de plus en plus, avec l'arrivée de tout ce qui s'appelle technologie numérique, des gens qui ont des profils en génie informatique, en ergonomie numérique, peuvent aussi avoir un intérêt pour le développement des nouvelles technologies adaptées et vont venir voir si une place pourrait leur être offerte dans notre programme de maîtrise. Et en fonction du profil de premier cycle et de l'expérience pratique concrète de l'étudiant ou du futur étudiant, on vérifie si c'est un candidat qui va être heureux dans cette profession et qui pourra être heureux dans le cadre des études universitaires de deuxième cycle.
Donc, vous, Mme Jarry, vous êtes professeure à l'école depuis plusieurs années?
Moi, j'ai débuté, en fait, j'ai commencé par suivre la formation moi-même en 2007-2008. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller voir le directeur et de lui dire que je trouvais tellement formidable le développement de cette profession que s'il y avait possibilité d'avoir un poste pour moi, que je serais plus qu'heureuse de travailler avec les collègues de l'école d'optométrie. Et à ce moment-là, le docteur Gresset, le docteur Jacques Gresset, qui était directeur à l'époque, il m'avait dit, Anne, peut-être qu'effectivement, on aurait une petite place pour toi à mi-temps. Donc, moi, je suis à mi-temps. Et donc, depuis 2010, je suis professeure, au départ professeure adjointe, maintenant professeure agrégée. Et j'ai travaillé pendant 4 ans au centre Aimable Mackay après avoir terminé mon programme de formation pour l'enseignement de l'informatique et l'enseignement du braille. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je suis avec l'école d'optométrie.
On sent beaucoup de fierté et de joie et d'amour dans vos propos, mais dans le timbre de votre voix. Vous aimez beaucoup ce que vous faites.
Écoutez, moi, vous savez, j'ai moi-même une déficience visuelle très importante. Je suis atteinte de diabète depuis mon tout jeune âge, donc j'ai un diabète juvénile. Et j'ai une déficience visuelle très importante depuis l'âge de 25 ans. Et souvent, lorsqu'on a une déficience visuelle, on pense qu'on va devoir dépendre des autres et on va devoir avoir besoin d'aide, ce qui, bien sûr, est vrai, ce qui est tout à fait correct de demander de l'aide. Mais dans le cadre de mes fonctions, j'ai la chance de parler de tous les trucs et astuces et les moyens qui existent pour, je dirais, ne pas parler de l'incapacité, mais de parler de capacités différentes chez des gens qui sont atteints de certaines difficultés, qu'elles soient visuelles ou sensorielles ou motrices. Je crois comprendre de mieux en mieux ce que c'est que de devoir s'ajuster à la vie au quotidien malgré une situation de handicap, malgré une forme d'atteinte organique. Alors oui, je suis très, très chanceuse de pouvoir en parler à des étudiants qui choisissent cette profession-là et de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui est à la fois passé du côté de la réadaptation comme étant moi-même une usagère du centre Nazareth et Louis Braille, mais aussi quelqu'un qui tous les jours, je prépare mes cours, je prépare mes propres besoins personnels à utiliser l'ensemble de mes moyens à la fois internes, intellectuels, proprioceptifs, et aussi toutes les aides et outils technologiques avec les iPhones qui parlent et les afficheurs braille qu'on peut brancher en Bluetooth. Alors, je suis quelqu'un qui ne travaille jamais et qui travaille tout le temps.
Mm-hmm.
Et donc, c'est pour ça, je pense, que j'aime ou qu'on entend dans ma voix ce plaisir de parler de notre programme et de ce que je fais à l'école d'optométrie.
Ça doit faire de vous une professeure extrêmement crédible puisque vous pouvez tester toutes les choses.
Oui, ben en fait, je pense que les étudiants aiment beaucoup le côté pratico-pratique que j'apporte à la formation. Il y a des cours qui sont davantage théoriques, les cours du tronc commun qui sont davantage de développer des cadres conceptuels pour voir comment on analyse les besoins ou évalue les besoins d'une clientèle. Mais moi, je dirais que je l'arrose toujours de quelque chose d'un petit peu plus personnel, soit de mon propre vécu ou des gens que je côtoie depuis que j'ai une déficience visuelle, donc depuis 33 ans. Et comme j'ai toujours travaillé dans le milieu, en débutant par travailler dans le milieu des sports pour aveugles au tout début lors de mes études de niveau baccalauréat, pour ensuite avoir travaillé pendant plusieurs années à l'Institut national canadien pour les aveugles pour développer un centre technologique. Alors j'ai la chance, je vous dirais, de parsemer mes cours d'exemples très, très concrets de mes propres expériences ou de mes amis et collègues que j'ai côtoyés au cours des 30 dernières années.
Madame Jarry, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de ces chroniques régulières. Donc, on va parler de substitution de la vision, de basse vision, d'orientation, mobilité, de recherche. Mais je sens qu'on va parler de beaucoup d'autres choses aussi.
On va faire un petit peu de philosophie.
Merci beaucoup, Madame Jarry. À la semaine prochaine.
Merci à vous.
Au revoir.
C'est un plaisir. Au revoir.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Alors, dans le cadre de la nouvelle mouture, Diane, de Regards sur le monde, la dernière portion de l'émission, nous allons faire des nouvelles coups de cœur.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, on y va.
On y va. Donc, Michel, Paris attire plus d'un million de touristes handicapés.
Bien sûr, près de 3 % des touristes à Paris sont en situation de handicap. Ces visiteurs dépensent plus de 500 millions d'euros chaque année. Alors, handicapé est aussi consommateur. Les personnes en situation de handicap représentent un véritable marché en matière de tourisme. L'argument est d'ailleurs souvent utilisé pour inciter les commerçants à rendre leur établissement accessible. Une récente étude sur les clientèles touristiques à besoins spécifiques et leur accompagnateur vient de lui donner une réalité chiffrée. Donc, elle porte sur la destination de Paris. Alors, un visiteur sur 20 a des besoins spécifiques. Mais ce qui est particulier à Paris, Paris est loin d'être une ville très accueillante pour les personnes en situation de handicap, car il y a une seule ligne de son métro qui est accessible. Voilà.
Maintenant, parlons de Hyundai, aide à la conduite pour conducteurs sourds et malentendants.
Hyundai a développé un système d'alerte visuelle et tactile pour aider les personnes sourdes ou malentendantes au volant à percevoir l'environnement sonore du trafic. Il a été testé avec un taximan de Séoul. On sait qu'à Séoul, il y a beaucoup plus de circulation qu'à Montréal. Alors, Hyundai a mis au point un système adapté à l'absence d'audition. La technologie utilise l'intelligence artificielle pour identifier les bruits internes et externes de la voiture. Ces signaux sont ensuite transformés selon le type de danger ou d'indication en informations visuelles sur le volant et en affichage tête haute ainsi qu'en sensations tactiles. Alors ainsi, l'avantage lumineux LED multicolore sur le volant envoie des alertes et peut également servir à la navigation en complément des projections sur le pare-brise. Quant aux vibrations, la fréquence et l'intensité donnent des indications sur la présence d'obstacles et sur leur distance par rapport au véhicule.
Un étudiant rafle deux bourses de l'Institut national canadien des aveugles.
Oui, un étudiant au cégep d'Édouard-Montpetit, Félix de Rome, a décroché deux bourses plutôt qu'une. Le jeune vit avec une maladie dégénérative de l'œil, une condition qui comporte son lot de défis, mais qui ne l'empêche certainement pas d'exceller et d'avoir de l'ambition. Alors, l'INCA 2018, une bourse de 3 000 $ et la bourse SAPA, S-A-P-A 2018, de 1 000 $. Ces montants lui serviront à se procurer un nouvel ordinateur et à payer les frais liés à sa scolarité, comme les manuels. Alors, le jeune de Boucherville s'est dirigé vers les sciences humaines avec pour objectif initial de faire carrière plus tard en travail social. Il semble que ce domaine serait tout indiqué pour Félix, son entourage voyant en lui ce désir d'aider et un grand respect des autres. Si certains cours captent son intérêt, il admet que ce n'est pas celui qui le motive le plus, Diane, en ce moment. L'une de ses passions est, comme vous, la musique. Alors, il dit qu'il aime beaucoup jouer de la musique et joue de la guitare et du piano depuis au moins 5 ans.
Un autre sujet maintenant, une séance de hockey sonore avec le 67 d'Ottawa.
Oui, le 67 d'Ottawa a participé à une séance d'entraînement spéciale. Ils ont reçu des élèves de 2 conseils scolaires d'Ottawa qui vivent avec un handicap visuel. Les jeunes ont eu la chance de découvrir le hockey sonore, un sport fait sur mesure pour les aveugles. Ce sport utilise une plus petite surface de jeu et une plus grosse rondelle. Cette dernière est remplie de billes de métal qui font du bruit et permettent aux joueurs de la suivre sur la glace. Au menu de la séance de hockey sonore, des conseils sur le patinage et de petits matchs avec cette fameuse grosse rondelle bruyante. Un entraînement apprécié des jeunes joueurs et de leurs parents qui les accompagnaient. Les joueurs des 67 d'Ottawa qui ont participé à l'événement étaient heureux d'accompagner les jeunes. Le hockey sonore est un sport qui compte de plus en plus d'adeptes. Avec ce type d'activité, Hockey Sonore Canada espère intéresser un plus grand nombre de jeunes à la pratique de la discipline.
Une robe de mariée en fauteuil roulant a inspiré plus d'une femme, Michel.
Eh bien oui, ça c'est assez intéressant. C'est un magasin dans la région de, je crois que c'est à Paris, où ils ont dans la vitrine une robe blanche drapée élégant avec décolleté très gracieux. Et le fauteuil est finement décoré de verdure. Alors, c'est justement ce dernier détail qui a soulevé l'intérêt d'une passante dans une ville au Royaume-Uni. La dame en question, Beth Wilson, est en fauteuil roulant depuis 5 ans. Elle n'a pu s'empêcher de prendre en photo la vitrine du magasin de robes de mariée quand elle a vu que l'un des modèles était présenté en fauteuil roulant en janvier dernier, le 9 janvier dernier. Une émotion qu'elle a souhaité partager sur Twitter pour le grand plaisir de nombreux internautes qui ont relayé sa photo. Alors voilà, c'était très original.
Maintenant, le volet découverte scientifique. Comment le cerveau réagit à la perte de la vue?
Alors ça, c'est le genre de choses qu'on aura l'occasion de parler sûrement avec Mme Jarry au cours des prochaines semaines. Mais perdre un sens bouleverse les autres. Alors c'est pourquoi les personnes aveugles ont généralement l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût plus développé que la moyenne. Des chercheurs ont voulu comprendre quelles étaient la réaction du cerveau à la perte de la vue et ont étudié les cerveaux de souris aveugles. Les recherches ont été menées au sein de l'université allemande de Bochum. Les scientifiques ont observé le cerveau des souris juste après le début de leur cécité et ont procédé à des tests de mémoire spatiale pour évaluer leur mémoire. Ils ont mesuré la densité des récepteurs et des neurotransmetteurs. Les chercheurs ont comparé cette densité chez les souris aveugles à celle des souris en bonne santé. Alors, les souris qui venaient de perdre la vue avaient une densité modifiée des récepteurs, des neurotransmetteurs et une détérioration de la plasticité des synapses dans l'hippocampe. Alors, plus les mois passaient et plus cette plasticité s'abîmait et dans le même temps, la mémoire dans l'espace se réduisait. Alors, au fil du temps, les récepteurs des neurotransmetteurs se sont modifiés dans d'autres régions du cerveau. Alors, c'est vraiment intéressant. Dernière chose, Diane, et qui est extrêmement importante au niveau du Comité paralympique canadien, avec Radio-Canada, qui a annoncé la couverture par Internet de la Super Série olympique en 2019. C'est déjà tout pour notre édition. Ici Diane Felice et Michel Poulain à la régie Maurice Bolduc. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Regards sur le monde à Canal M.